Voilà, je vous invite à vous asseoir. Nous allons commencer, c'est pas tout à fait dans nos habitudes, mais nous allons commencer avec les annonces. Pour ceux qui arrivent en retard, on va les repasser en boucle tout à la fin. Voilà, mais vous êtes là et j'aimerais vous communiquer nos annonces qui vont être projetées si tout marche bien. Alors, je vais vous les dire, vous allez les voir après si vous voulez. Ok, dimanche dernier, Sylvain nous a parlé de tout le sujet de la souffrance, violence, et il propose une lecture dans le journal Le Monde des Religions si quelqu'un aimerait poursuivre, et il y a un exemplaire à disposition. Cet après-midi, il y a à nouveau temps libre, c'est l'accueil des requérants d'asile, un temps convivial qu'on leur propose, petit groupe. Si vous voulez découvrir ce groupe, c'est à 15h30 dans nos locaux. Et puis pour donner suite à l'annonce qui avait été faite, notre commune accueille une centaine de réfugiés, probablement début février maintenant, et donc il y a une invitation à se joindre au travail qui se fait dans la commune. Il n'y a pas eu de demande précise jusque-là, mais nous vous invitons à vous intégrer selon vos possibilités dans ce qui est proposé. Et le 25, lundi 25 à 18h30, dans le bâtiment communal, à côté de l'auberge communale, il y a une rencontre où on peut dire nos disponibilités. Il y a aussi l'information de tout ce qui est proposé. Dimanche prochain, c'est nos jeunes qui animent le culte et nous découvrons tout sur ce qui s'est passé au camp de ski. Le dimanche d'après, dans 15 jours, il n'y aura pas de culte chez nous parce que nous sommes tous invités à célébrer le culte avec les autres communautés de Genève. Donc c'est un culte en commun qui est au Pal Expo et il y a des flyers à disposition. Ça se présente comme ça, il y en a beaucoup à disposition. Voilà, je poursuis. Vendredi 5 février, Jean-Jacques et Liliane Mélan seront de retour au milieu de nous, accompagnés de Claude et Francine Parnigoni. Ils ont fait ce voyage en Iran et Arménie et c'est l'occasion de découvrir. Donc, vendredi 5, on a corrigé la date. Samedi 6, Le groupe Free Time, les jeunes adultes, propose une conférence Big Bang et création, un regard chrétien sur l'origine de l'univers avec le docteur Sylvain Bréchet. Les papillons également à disposition, ça aura lieu à la Pellisserie à 20h, donc le samedi 6 février, papillons à disposition. Et puis, je poursuis encore le chemin de la passion. C'était le slide avant. Merci. Ça s'approche. Hein. C'est avant Pâques. Vous avez les dates qui sont là, du 12 au 18 mars. Et c'est une animation qui est proposée par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est dans le cadre des 40 ans du CEPOM et nous avons proposé cet événement qui était accueilli avec enthousiasme. Donc, mais on a besoin des bras, des mains. Donc, vous pouvez signaler votre disponibilité soit à Denise Félix, soit à Benjamin Anchaud. Merci. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est encore plus clair. Donc, vous voyez, il y a toute une série de possibilités d'entrer dans ce projet que nous apprécions parce que ça nous amène au cœur de la cité. Service PAC, ça suivra du 25 au 28 du mois de mars. Donc là, juste autour de Pâques, qui est très tôt cette année. Et ensuite, il y a, je vous rappelle aussi, l'événement annuel, le camp de la Drôme. Il y a des papillons aussi à disposition. Beaucoup ont déjà profité de ces camps. Nous avons une inscription préférentielle avec trois autres églises, vu qu'il y a beaucoup qui participent à l'organisation, mais c'est juste à la fin de ce mois. Donc, il ne faut pas remettre trop longtemps votre inscription pour le camp de la Drôme, papillon à disposition. À la fin du culte, il y aura une information sur quelque chose que nous démarrons dans l'église. Ce serait après le culte, si c'est dans vos possibilités de rester, nous vous l'encourageons de le faire, sur transformation qui est proposée par la FREI et démarche dans laquelle nous entrons. Voilà, il me semble, pour les annonces. J'espère, si vous n'avez pas tout suivi, après l'information de transformation, on remettra les choses en boucle, vous pouvez noter dans vos agendas. Voilà, parole à vous.
Bonjour tout le monde. Ça va? Vous m'avez vu? Je suis caché là. Je suis tout au fond à gauche. Là. Que le Seigneur soit béni. Je sais que vous allez dire oui. Hein. Est-ce que vous avez envie d'adorer Jésus? Oui. Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il est tout puissant pour vous guérir? Oulala, il y a moins de oui, là. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que par sa grâce, il nous pardonne? Ben voilà, ça tombe bien parce qu'on va le chanter. Ça va? Que le Seigneur soit béni et que ce moment de louange vraiment soit vraiment la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Intro. Tu as payé pour tous, et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner.
Grâce nous pardonner. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue pour ce culte que nous désirons célébrer ensemble. Nous allons prier. Nous voici devant toi, Seigneur, avec notre parcours de semaine, avec ce que nous sommes, désireux de te rencontrer tout à nouveau ce matin, tel que toi tu es, ce Dieu grand, merveilleux, compatissant, bienveillant, fidèle, juste. Béni sois-tu de ce que tu aimes parler à ton peuple réuni au nom de Jésus. Amen. Juste quelques mots tirés de quelques extraits du psaume 86. Toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Je glorifierai ton nom toujours, car ta bienveillance est grande envers moi. Toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. C'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console, aujourd'hui comme hier. Je relis juste le verset 11 et 12. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je glorifierai ton nom toujours. Le nom, c'était le... Et c'est encore, dans bien des cultures, le reflet d'un événement ou de la personnalité annoncée de la personne. Et on va rencontrer une telle personne lors de la prédication, sans que je dévoile tout. Son nom a été changé. Et nous pouvons avoir un surnom qui est plus ou moins approprié, mais comment Dieu s'appelle? Lui, il s'appelle. Il s'appelle... compassion. Il s'appelle bienveillance, fidélité. Il fait grâce. Nous nous arrêtons ce matin pour célébrer Dieu tel qu'il est.
Nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever. Alors, élevons aussi nos voix. Amen. Un, deux, trois, quatre.
Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Patience infinie.
Ce Dieu de lumière, j'aimerais qu'on continue à l'élever. Par ce chant, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi.
voici devant toi. Touche-lui dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi.
Sentons-nous libres d'exprimer et de dire à Dieu tout le bien qu'on pense de lui. Gloire à ton nom, Seigneur. Thank you.
Alléluia. Seigneur, c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Ouais. Et cet esprit qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, c'était l'esprit du Seigneur. C'est le même esprit qui animait tous les grands hommes de Dieu. Cet esprit était également à l'origine de tout. Il était là lorsque Dieu a fait apparaître l'univers et la terre. Cet esprit qui nous habite est l'esprit de Dieu qui crée cet univers et qui en connaît tous les recoins. Viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Que ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi.
Ma sécurité.
parler de notre semaine, nous avons le privilège de nous arrêter et juste un peu faire le point avant de participer au pain, au vin, à l'invitation du Seigneur. J'ai l'avantage de vous parce que j'ai déjà pensé ce que j'aimerais dire en introduction de ce moment et j'ai pu m'arrêter et écouter quelques versets qui m'ont interpellé. Je crois que c'est important juste de faire silence devant le Seigneur avant d'entrer dans ce temps. Ô Dieu, tu connais mes égarements et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à cause de moi, Dieu d'Israël. Tu connais mes égarements, ma folie, mes actes coupables ne te sont pas cachés. Prenons juste un moment de laisser le Seigneur, son esprit, sonder nos cœurs, s'il y a des choses à dire dans le silence devant lui avant d'entrer dans ce moment. J'enchaînerai avec une deuxième lecture. Qui est Dieu comme toi? Je lis la conclusion du livre de Michée. Qui est Dieu comme toi? Pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. J'invite Sylvain Wenger aussi pour une lecture dans le Nouveau Testament. Nous retrouvons donc tous ces éléments de la nature de Dieu, de qui il est. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime, sur nos fautes, sur nos crimes. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. »
Qui est Dieu comme toi, Seigneur? Rien n'est caché devant ta face. Tu as entendu les cris de nos cœurs pour que tu daignes exercer encore ta compassion envers nous, ta patience, ton pardon. Nous te louons pour le don de Jésus. Et en prenant ce pain et ce vin, nous nous souvenons qu'en lui, tu as choisi d'effacer tous nos péchés. En le ressuscitant, tu nous as déclarés justes en lui. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Est-ce que je peux te demander deux personnes de venir aider avec la distribution? Même toi. Nous te louons de ce que, Père Céleste, tu as choisi ainsi d'effacer notre péché, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous voici maintenant, Seigneur, devant toi, désireux d'entendre ta voix, de recevoir ce que tu veux nous dire encore ce matin. Nous te prions de conduire ton serviteur, Claude Becher, qui nous parlera en ton nom. Veuille l'inspirer et que nos cœurs puissent être attentifs à ta voix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est effectivement mon plaisir et mon privilège d'accueillir Claude Becher qui est ici, nouvellement arrivé dans le canton de Genève, c'est le cas de le dire, c'est depuis juste quelques semaines. Très content de t'accueillir, que tu sois au milieu de nous. Je ne pense pas que tu es venu seul, il y a de la famille qui est là, voilà. Bienvenue. Donc, je ne vais pas donner tout ton parcours, mais tu n'es pas un étranger à ce coin du monde parce que tu étais pasteur à Saint-Genis dans le lointain passé. Voilà. Et depuis, tu as eu tout un parcours, entre autres directeur d'école biblique et puis plusieurs casquettes, enseignant. À la fac de Vaux-sur-Seine, entre autres. Et puis, un nouveau projet qui s'ouvre à Genève, aussi en vue des 500 ans de la réforme l'année prochaine, 2017. Donc, je ne sais pas si tu vas nous dire davantage, mais en tout cas, bienvenue au milieu de nous, que le Seigneur te bénisse.
Salut dans le Seigneur les uns et les autres. Plaisir de revoir quelques visages connus et puis de découvrir des nouveaux visages. Des fois, je vois chez les enfants la trace des pères et des mères. Vous voyez, c'est qu'on a pris de l'âge quand ça arrive. Je me souviens que le pasteur Heiniger était là en service à l'époque. Ça fait déjà une paye, hein. Ils sont là ? Oui, derrière. J'ai servi pendant près de 5 ans l'église de Lausanne, l'église de la Fraie. Et puis il y a aussi quelqu'un qui est connu ici, c'était Jean-Jacques et Liliane Mélan. Enfin, connu, pas des plus jeunes, mais peut-être des avancés. Écoutez, j'ai appris que vous aviez une série sur les personnages moins connus de la Bible, c'est juste ? Ouais. Alors je vous en ajoute, hein. J'ai appris qu'il n'était pas encore dans le lot de ceux que vous avez visités. Barnabas. Alors, pas Barabbas. C'est quelqu'un qui était une sorte de meurtrier, qui était l'un des... Mais Barnabas. Vous savez, Barabbas, c'était le gars qui était libéré. Parce qu'il fallait libérer quelqu'un lors des fêtes extraordinaires de Pâques à Jérusalem. C'était pas Jésus. Donc, mais ça, c'est... Barnabas ou Barnabé. Ah, il a failli être apôtre. Hein. Alors, selon une tradition, quand je lis le livre des Actes, dans le livre des Actes, il y a un truc un peu bizarre. À un moment donné, ils croyaient qu'il fallait de nouveau être 12 apôtres, et ils ont choisi un. Et c'était tombé sur, mais selon une tradition seulement, et on présenta 2. Joseph, appelé Barsabas. Alors, ça devient compliqué maintenant. Hein. Alors, tous les chrétiens ne pensent pas que c'est lui, mais quand même, il s'appelait Joseph, appelé Barnabas, celui dont on va parler. Et là, c'est un Joseph, bon, il y avait pas mal de Joseph hein, à l'époque, appelé Barsabas, surnommé Justus, alors 2 prénoms, hein. Je ne sais pas comment vous appelle, vous. Hein. Et Matthias, et manque de peau, le lot est tombé sur Matthias. Enfin, manque de peau, c'est pour ça que je dis que c'était peut-être un presque apôtre. En tout cas, il était apôtre, mais pas un des 12. Alors, écoutez, ça va être une prédication un petit peu bizarre. On va surtout lire la Bible. Vous me pardonnerez ? Enfin, vous me direz, il vaut mieux, non ? Et on va le suivre. Et j'ai deux, trois choses intéressantes à vous dire à son sujet qui, je pense, vont s'appliquer à nous, les jeunes vieux et les vieux jeunes. Alors, ce n'est pas une photo d'époque. On a essayé de le représenter. Il ressemble à l'apôtre Paul, quelque part. Il a une croix pour montrer l'étole de l'annonce de l'Évangile. Il y a un texte, il se réfère à Jésus. Écoutez, on va faire des lectures. Je fais des lectures et vous, ceux qui savent lire, vous suivez. Et si vous voulez écouter, vous écoutez. Actes chapitre 4, 32 à 37. La grande figure avant Paul, c'était Barnabas. Écoutez, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Dans les semaines de l'unité, ça fait du bien d'entendre ça, non ? Ça continue pas toujours comme ça, remarquez. On commence bien. Et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. C'était une autre époque, hein. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Donc il faut s'imaginer Jérusalem qui a décuplé de volume. C'est la Pentecôte, on met en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur, ça ? Il n'y aura pas de pauvres chez toi, c'était déjà une prescription pour Israël dans le temps. Seulement après, ils n'ont pas suivi les règles économiques et Israël, il y avait pas mal de pauvres aussi, hein. Mais là, Pentecôte, quand il y a le Saint-Esprit, personne n'est tenu pour indigent parce qu'on est sensible à tout le monde. C'est pas ça le preuve du Saint-Esprit, dites-moi. Pas sûr, hein ? Si. Ça s'appelle communion. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a communion, non ? Et communion, c'est pas juste de l'émotion. Alors on continue. Nul parmi eux n'était indigent. J'ai mis en rouge, c'est pas neutre. C'est pas rouge dans le texte original. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient pour gestion aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses... Donc pas tout le monde la même chose. Hein ? Ainsi Joseph, le voici. Écoutez bien, il s'appelle Joseph. C'est son surnom, hein, le Barnabé. Surnommé Barnabas par des apôtres. Ce qui signifie l'homme de réconfort. Ensuite, j'ai mis certaines traductions pour que vous voyez ce que c'est. L'homme de réconfort ou l'homme d'encouragement ou l'homme d'épaulement, d'exhortation. Et exhorter, c'est venir par en bas et, d'accord, l'exhortation. Ça fait du bien d'avoir des Joseph Barnabé dans une église, je peux vous dire. Dieu qui font du bien. Ben voilà, c'est lui. Qu'est-ce qu'on sait ? Il possédait un champ. C'était un Lévite. Donc ce gars-là, à la Pentecôte, il y était. Parce que tous les juifs pieux, quatre fois par an, ils allaient au temple. Il n'y en a qu'un temple, hein. C'est pas comme Genève, hein. Il y a un temple. Un Lévite. Originaire de Chypre. Donc c'est un juif de la diaspora, de l'éparpillement, de la diaspora. On y est, hein. C'est déjà pas mal, on sait pas mal de choses sur lui déjà, non ? Il vendit son champ en apportant le montant et déposa aux pieds des apôtres. Chic type, non ? Jusqu'à là. On continue. Pardon ? Profil de Barnabas. Un statut assez important dans la diaspora juive. Judéo-chrétien, ça veut dire qu'il était un juif, mais qui croyait que Jésus était le Messie, donc c'était un vrai juif, hein. Il est lévite de Chypre. Semble jouir d'un prestige auprès des apôtres, vous allez voir, parce que les apôtres vont lui confier un boulot. Ouais, on ne donne pas tous ces boulots un peu difficiles à n'importe qui. C'est un homme bon, de grand cœur, on sait déjà pas mal de choses, hein, sur sa carte d'identité, et il se révélera aussi un intercesseur. Écoutez, ce gars, il a un don particulier. C'est le gars qui remet en selle des gens qui sont tombés de cheval. Enfin, pas des vrais chevaux. C'est son don. Et il va le faire à plusieurs reprises. Une fois ça passe, deuxième fois ça casse. Vous allez voir. Un facilitateur, il savait permettre aux autres, y compris de mauvaises réputations, des sales types, quoi. Il dit, donne-lui encore une chance. C'est lui, ça. D'accord ? Il y a dans les églises une ou deux personnes, souvent comme ça. Et d'autres qui disent... On continue. Il permettait à certains sales types de donner le meilleur d'eux-mêmes à cause de la grâce de Dieu. Par l'Esprit de Jésus, ils voient leur potentiel, ils voient Jésus à l'œuvre avant que les autres le voient. Ça n'existe pas dans les églises, ça ? Il y en a même qui exagèrent. Écoutez, voilà pour le moment Barnabas. Il sait voir Dieu, le Dieu de grâce à l'œuvre. Pas le Dieu Père Fouettard à l'œuvre. Ça, il y en a assez. Mais le Dieu de grâce à l'œuvre. Le Dieu de la seconde chance. De la chance supplémentaire. Au début, Barnabas, il est le leader. Dans le livre des Actes, vous avez Barnabas et Saul. Saul, c'est le premier nom de Paul, d'accord ? Après, tout d'un coup, à un moment donné, c'est Paul et Barnabas. Et tout d'un coup, c'est Paul tout seul avec d'autres. On va réfléchir à ça ? On continue. Pour le moment, ça commence bien, non ? Et après, il y a Paphos. Bon, vous ne savez pas où c'est pas grave. Il y a Paul qui prend le lead. Le lead, ça veut dire, il est devant Elimas, qui est un magicien, ça s'est tendu, et c'est Paul, là, qui prend le lead. Avant, c'était Barnabas. C'était une figure secondaire. Bon, jusqu'à là, on continue. Barnabas, il est facilitateur pour le règne de Dieu. Écoutez ça, j'aimerais bien qu'on soit plus apprentis de ça, d'accord ? Tous, dans mon diplôme, il y avait souvent marqué « fin d'année, peut mieux faire ». J'étais content. Il croyait que je pouvais. Hein ? Écoutez là, le récit du livre des Actes, chapitre 9. Arrivé à Jérusalem, Saul essayait de se joindre aux disciples. Vous voyez ? Essayait de se joindre à Mérin, d'accord ? Mais c'est un sale type. Enfin, à l'époque. Mais, oui, tout, parce qu'il persécutait l'Église, d'accord ? Il était zélé pour Dieu. Pour Dieu, des fois, on a des logiques criminelles, et pas que dans l'islam, hein ? Et pas seulement la croisade, d'accord ? Dans nos têtes, des fois aussi. Écoutez, Saul essayait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, n'arrivant pas à le croire vraiment disciple. Ce gars, attention. Barnabas le prit alors avec lui, l'introduisit auprès des apôtres, facilitateurs, et leur raconta comment, sur la route, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il s'est exprimé avec assurance pour le nom de Jésus. Vous saisissez ? Dès lors, Saul allait et venait avec eux, les apôtres, dans Jérusalem, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Vous avez vu ce petit truc ? Il faut des fois des dons spéciaux pour que certains puissent être introduits, y compris à Mérin. Enfin, à Mérin, je veux dire, dans l'Église. Mérin ou ailleurs, c'est pareil. On continue toujours la lecture, ça. Vous suivez jusqu'à là ? Acte 11, ça progresse, hein ? Ceux qui avaient dispersé la tourmente survenue à propos du martyr d'Étienne, vous vous souvenez ? Enfin, sinon, vous lisez Acte. Hein, étaient presque passé jusqu'en Phénicie, Palestine, Phénicie, à Chypre, à Antioche, sans annoncer la parole à nul autre que aux Juifs. Jusque-là, la mission était Moi et mes copains, ma tribu, mon clan, d'accord ? On n'avait pas encore reçu par le Saint-Esprit la libération des œillères. Certains d'entre eux, on parle de chrétiens là, hein, certains d'entre eux, pourtant, originaires de Chypre et de Cyrène, suivez mon regard, Barnabas, une fois arrivés à Antioche, adressaient aussi aux Grecs, ces païens, c'est malpropre, c'est mauvais. Les Grecs, des vrais, quoi, hein ? Aux Grecs, la bonne nouvelle de Jésus Seigneur. Le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur en devenant croyants. Ah, nous, on ne s'imagine pas, hein ? La nouvelle de cet événement parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem et on délégua à Barnabas. On délégua Barnabas à Antioche. Donc, vous vous rendez compte, les apôtres délèguent Barnabas. C'est pas n'importe qui quand même, non ? C'est quelqu'un qui jouit d'un prestige auprès des apôtres. On continue, on sait déjà plus de choses. Vous allez voir, ça va finir en queue de poisson. Oui, nos vies, des fois, se terminent comme ça aussi. On se dit, mais Seigneur, et alors ? Alors, on y vient. Quand Barnabas vit sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, qu'est-ce qu'il voit quand lui, il ouvre ? Ce n'est pas le diable à l'œuvre, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre. Il y a des gens comme ça. Il fut dans la joie et les pressait tous, qu'est-ce qu'il leur disait, de rester du cœur attaché au Seigneur. J'aime cette expression. Il les pressait, et ça veut dire qu'il y a un petit peu de, ça déménage, hein, de rester de cœur attaché au Seigneur. Qui c'est Seigneur ? C'est Jésus, hein, c'est pas Zeus. C'est pas Apollon, hein. C'est Jésus. C'était en effet un homme, ah, voilà, on voit plus de choses sur sa carte d'identité. Homme droit, rempli d'Esprit Saint et de confiance, de foi. Un homme droit, il est droit dans ses bottes. Il est sans mélange, si vous voulez. Il n'est pas parfait. Hein. Il est, vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Moi non plus, rassurez-vous. Hein. Un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de confiance. Confiance que quoi ? Que Jésus est en train de travailler et qu'il nous fait la grâce de travailler avec lui. C'est ça la foi. On lit la suite. Une foule nombreuse fut ralliée au Seigneur. Barnabas partit alors chercher Saul. Où est-ce qu'il va ? À Tarse. Ce gars, il se déplace, hein, il mouille sa chemise. Ah non, ça ne va pas rester comme ça, moi je vais le trouver. Lui, il n'osera pas venir, mais moi je vais chercher Saul de Tarse. D'accord ? Il va le chercher, pourquoi ? Parce qu'il voit qu'il est débordé, ce gars. Il dit, moi, je ne suis pas le chouchou de Dieu unique, hein ? J'ai besoin d'aide. Alors, Barnabas va chercher pour l'aide de ce que Dieu est en train de faire, Saul, le grand Paul. Alors on continue. Il y trouva et l'amena à Antioche. Et il faut déjà le faire, hein, parce que Paul, ce n'est pas juste un enfant de cœur qui se laisse faire. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire. On parle de Jésus, instruction. La doctrine des apôtres, c'est ce que Jésus a enseigné. La doctrine des apôtres, c'est les évangiles, si vous voulez, vous comprenez ? Ils persévèrent dans la doctrine des apôtres. C'est quoi la doctrine des apôtres ? C'est Jésus. C'est ce qu'il a enseigné, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Alors, il enseigne une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. On continue jusqu'à là ? C'est un apôtre, non ? Non ? Si ça, c'est pas un apôtre. Alors, en ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Les prophètes étaient des évangélistes itinérants. Il ne faut pas s'imaginer. On a souvent des choses qui viennent dans la tête. Ce sont ceux qui parlent de la part du Seigneur. Mais pas seulement pour dire l'avenir, mais aussi pour dire d'abord la parole de Dieu. d'abord la parole de Dieu. Et il arrive parfois que le Seigneur permette que quelque chose soit dit en avance. En général, c'est sous la responsabilité seule des prophètes. Parce que vous ne pouvez pas savoir si ça va arriver ou pas, non ? Alors, des prophètes, évangélistes, comme ça, descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un de eux, appelé Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande famine allait régner dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent alors qu'ils enverraient, selon les ressources de chacun, une contribution au service des frères qui habitaient la Judée. Oui, parce que là-bas, il y a une sorte de quartier général où tout le monde ne travaille pas. Il y en a qui sont au service de Dieu pour faire l'enseignement. Et puis, c'est plus important d'envoyer d'Antioche à là-bas ou bien de l'actuelle Turquie des églises là-bas, de l'aide. Selon les ressources de chacun, une contribution au service des frères qui habitaient la Judée. Ce qui fut fait, l'envoi adressé aux anciens fut confié aux mains de Barnabas et Saul. Vous avez vu, c'est encore dans ce sens. Chef de file et le second. Il y avait à Antioche dans l'église des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Niger, et Lucius de Cyrène, Ménaën, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé, se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit. Par l'Église ou le Saint-Esprit ? Les deux, mon général. Hein ? Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Qui est-ce qui vient de Chypre ? Barnabas. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. C'est les assemblées des Juifs. C'est là que le monothéisme est commun. Hein ? Il y avait également Jean, leur assistant. Et là, il y a un problème qui va venir. Ah, mes amis. Jean-Marc, oui. On continue. Ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas la géographie. Le bleu, c'est la mer. Ah non. Voilà, pardon. Un petit voyage par rapport à d'autres voyages plus tard. Hein. Mais voilà. Ça passe par Chypre, Paphos, à Chypre, et puis ensuite ils vont vers la Pamphylie, et puis après ils montent dans la terre jusqu'à un endroit qui s'appelle Pisidie, c'est l'actuelle Turquie, hein. Allez-y, c'est super beau. Pas de problème. Et puis vous pouvez revenir vers Antioche, qui est le coin en haut à droite. Je continue mon récit parce qu'on va apprendre quelque chose. Paul. Maintenant, Paul et Barnabas, ça vous avez vu ? Tchoup ! Ah ben, nous vieillissons tous, à un moment donné, vos fils sont les fils de vous, et puis à un moment donné, vous êtes le père de vos fils, hein, ou vos filles. Hein. Paul et Barnabas firent voile vers Antioche, leur point de départ, où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé. Pas tout, hein. Avec eux, et surtout comment ils avaient ouvert aux païens la porte de la foi en Jésus. Mes amis, c'est pas n'importe qui, ça. Et ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Et maintenant, le duo de choc. Certains gens descendirent alors de Judée, et du nombril du monde, hein, c'est le temple, hein, des apôtres. Certains descendirent de Judée, qui voulait endoctriner les frères. Si vous ne vous faites pas circoncire, demandez à vos parents, les enfants, si vous êtes là, ce que c'est. Selon la règle de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Un conflit en résultat. Et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens, on décida que Paul, Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem, trouver les apôtres et les anciens à propos de ceux différents, l'église d'Antioche, pourvue à leur voyage. Donc, c'est normal. Quand on règle un problème, on va régler là où il est né. Où il est né, à Jérusalem. C'est là-bas qu'on va discuter avec les témoins de Jésus, vous comprenez, qui étaient vivants à ce moment-là. Voilà. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et il se trouve qu'il y a un concile. Jusqu'à-là, c'est très beau. C'est très soft. C'est happy end. Hein. Arrivé à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Vous pouvez écrire, d'ailleurs, ce soir, « Tout ce que Dieu a réalisé avec moi ». C'est assez intéressant comme approche. Pas en moi, mais avec moi. Ce que Dieu a réalisé, pas ce que j'ai réalisé. Vous saisissez ? Écoutez la suite. Et ils mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Des disciples, des fidèles issus du... Ben, ils n'en pouvaient rien, les pauvres. C'était des pharisiens avant. Ben, ils ont gardé leur mauvaise inclinaison après la nouvelle naissance. Ça existe, non ? Ou bien vous êtes... la nouvelle naissance vous a libéré de toutes les manières un peu étroites que vous aviez avant la conversion ? Non, hein ? Eh bien, voilà, là, c'est pareil. Des disciples de Jésus, donc des chrétiens issus du pharisaïsme, intervinrent alors pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Point de suspension, point de suspension, point de suspension. La fin, c'est l'apôtre Jacques, peut-être le frère du Seigneur Jésus, hein, dit « Je suis d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir de ce qu'il faut pour être une communauté avec des juifs, hein, minimum, des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, et à l'époque, comme ce serait le cas pour des gens qui se tournent de l'islam aujourd'hui, ou qui se tournent du judaïsme aujourd'hui, et des viandes étouffées et du sang. Voilà les règles minimales pour faire communauté ensemble, vous comprenez ? Jusqu'à là, c'est très bien. C'est ce qui se passe maintenant qui est un petit peu problématique et j'aimerais l'évoquer en disant aussi dans nos vies, ça risque d'être un petit peu pareil. Ayant reçu congé, acte 15, verset 30-35, la délégation descendit donc à Antioche. Ben oui, une fois qu'on a pris la décision là où est né le problème, on vient dire la solution. C'est la manière d'être en paix ensemble dans l'Église, ça, les conciles, hein. Où elle réunit l'assemblée pour lui communiquer la lettre des apôtres. Là, sa lecture fut une joie par l'encouragement qu'elle apportait à Antioche. Judas et Silas, de leur côté, en prophètes qu'ils étaient, leur apportèrent longuement de vive voix encouragement et soutien. Ils restèrent quelque temps, puis les frères leur donnèrent congé en leur souhaitant la paix pour rejoindre ceux qui les avaient envoyés. Quant à Paul et Barnabas, ils demeurèrent à Antioche. En compagnie de beaucoup d'autres encore, ils enseignaient et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Maintenant, il y a une rupture sur une question de désertion. C'est que Jean, Marc, il a déserté pour des raisons que la Bible ne nous dit pas. Pourquoi ? Il y avait un trio, vous vous souvenez ? Jean, Marc devaient accompagner Paul et Barnabas, mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il est parti. Et le problème va naître dans le duo de choc. Je fais la lecture. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole de Dieu. Nous verrons où ils en sont. » Barnabas voulait amener aussi avec eux Jean appelé Marc, le déserteur. Et Barnabas, il ne donne pas de problème. Je te redonne une chance, mon ami. Mon don que le Seigneur m'a donné, c'est de remettre les gens sur l'étrier. Sur la selle, hein, une fois qu'ils sont tombés, non ? Mais ça n'a pas plu à Paul. Paul, pourtant, a été remis sur la selle, mais il n'a pas accepté que Jean, Marc, pour une mission d'annonce de la parole, puisse être remis en selle. Et ça va créer un gros problème. Regardez. Nous verrons où ils en sont. Barnabas voulait amener aussi avec lui Jean appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés. Le mot déserté est là. En Pamphylie, et n'avait donc pas partagé leur boulot. Leur désaccord, le mot grec « dispute sévère hein, », ça vient du mot « paroxysme » en grec. Cherchez pas, c'est un peu intense. S'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Vous connaissez ça, vous, dans des chrétiens qui étaient des copains et qui sont... Vous connaissez ? Ah ben ouais, non, vous connaissez pas ? Attendez un peu, alors ça va venir. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait. Et c'est drôle, c'est pas dit de Barnabas et de Jean-Marc, mais c'est dit de Paul et de Silas, remis par les frères à la grâce du Seigneur. Il faut que vous sachiez que celui qui écrit, c'est Luc. Et Luc, c'est un copain à Paul. Et il a suivi Paul, il n'a pas suivi Barnabas. D'accord ? Fin de mention de Barnabas dans le livre des Actes. C'est queue de poisson, non ? Vous voudriez pas savoir la suite ? On ne trouve pas de suite, sauf des indices. Écoutez, dans la lettre de Paul aux Galates, Galatie, c'est Turquie, version Occident. Lorsque Pierre vint à Antioche, dit Paul, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans son tort. Et c'est le grand Pierre, c'est pas le petit Pierre, hein, c'est Paul, le petit Paul. Enfin, vous comprenez, enfin le grand Paul, mais c'est, vous comprenez, à l'époque. Paul, qui dit que Pierre s'est mis dans son tort, en effet, avant que soient venus des gens envoyés par Jacques de Jérusalem, hein, le frère du Seigneur, il prenait ses repas avec les païens, Pierre. Mais après leur arrivée, la délégation de Jérusalem, il se mit à se dérober et se tint à l'écart par crainte des circoncis, donc des juifs de Jérusalem, hein, des gens clean. Hein. Et les autres juifs entrèrent dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même... Maintenant, vous savez quelque chose de plus ? Barnabas lui-même fut entraîné dans ce hypocrite, c'était ça. Double jeu. Hein, c'est dans la Bible aussi. Hein. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, c'est ça son expression, j'ai mis en rouge, pas droit dans ses bottes avec l'Évangile, Pierre et Barnabas. Je dis à Pierre devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter comme un juif ? C'est un peu tendu, hein, non ? Bon, il faut que j'avance parce que je sais que le temps tourne chez vous aussi. Alors, on observe dans le livre des Actes des disputes. Ouais. Parce que si vous croyez que l'Église est juste gant de velours, où tout le monde est d'accord avec tout le monde, vous le savez, vous avez l'expérience, les aînés et puis les autres aussi, vous commencez. En cohabitant, on apprend un tas de choses. Dans les Actes, il y a aussi des ruptures non résolues. Entre deux acteurs majeurs de la mission auprès des non-juifs. Aux yeux de Paul, une perte d'une certaine légitimité. Et Luc n'épargne même pas les grandes figures, Pierre, Barnabas, mais montre comment le Seigneur, malgré tout, petit à petit, guide l'Église dans la résolution de problèmes, même si pour un temps, il y a malheureusement séparation. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas dans la Bible, parce que je le dis pour les aînés. Un jour, il y a un vieux disciple qui a eu un rêve la nuit. Et dans son rêve, il a été amené au Seigneur. Et puis, il était là, il regardait le tapis de sa vie. Et il le regardait, il dit, « Oh, là, il y a des fils mal faits. Là, c'est tordu. Là, c'est pas beau. Seigneur, tu me veux encore. Regarde ma vie, elle est inachevée. Elle est inachevée, ma vie, Seigneur. Elle est achevée, la vôtre ?» Seigneur. Et le Seigneur vint et a pris son tapis et il a dit, mais pourquoi tu regardes le tapis à l'envers ? Et il l'a tourné. Et dans la grâce de Dieu, Dieu fait de la récup. Avec nos vies inachevées, où il y a des choses qui ne sont pas tout à fait selon l'ordre de Dieu. Oui, il y a des choses inachevées. Pour le connaître, la joie de vieillir, il faut pouvoir accepter l'inachevé. Qu'est-ce que tu fais de ton inachevé, de nos inachevés, des... Comment ça s'appelle? Ça se termine en queue de poisson, non? Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec ce pont. Bon, vous oubliez le gars qui tombe. Mais c'est... Voilà, Paul Tournier avait raison de dire, pour connaître la joie de vieillir, il faut pouvoir accepter aussi l'inachevé. Alors, j'aimerais juste vous dire, pour vous qui aimez les happy ends, pour vous permettre aussi de vous sourire les uns les autres, après acte 15, il y a eu de meilleures dispositions. Jean-Marc est réhabilité aux yeux de Paul. Il est appelé utile pour le ministère, malgré tout. Oui, oui. Des fois, il faut momentanément des séparations à cause de notre sale caractère. Et ce qui est beau, c'est que la Bible ne dit tranche même pas si de Paul ou de Barnabas, tout le monde avait vraiment 100% tort ou pas tort. D'accord? Ça, c'est notre Dieu à nous, mais dans la grâce de Dieu. On voit aussi que Jean-Marc est avec Paul à Rome. Quand vers la fin de la vie de Paul, il écrit ses épîtres aux Colossiens, Jean-Marc est avec Paul. Et puis écoutez, 4 ans après ce concile d'Acte 15 dont je vous ai parlé, là où les apôtres ont été mis au cheminement, Barnabas est à nouveau considéré par Paul. Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, dit Paul, 1 Corinthiens 9, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Donc les relations fraternelles sont restaurées. Et j'aimerais conclure. Qu'est-ce que nous avons appris? Que nous sommes tous justifiés par les œuvres, non pas les œuvres que l'on fait, mais par la foi en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être entiers pour le Seigneur, mais Dieu fait vraiment de la récupération avec nous. Barnabas, grand amour pour le Seigneur et son règne, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Il consacre sa vie, y compris ses biens. Deuxièmement, la grande ouverture de Barnabas pour des irrécupérables momentanés, d'accord? Que Dieu donne des Barnabas féminins et masculins parmi nous. Et discerne leur potentiel, ils voient le Seigneur à l'œuvre, d'accord? Seigneur, donne-moi cet esprit. Et on aura des surprises. Barnabas reconnaît ses limites. Paul, je viens te chercher, viens m'aider, je suis dépassé, d'accord? C'est aussi une qualité ça, non? Qu'est-ce que j'apprends encore? Barnabas et Paul stimulent la générosité matérielle pour les éprouver. Ce n'est pas juste un évangile du cœur et rien de social, vous saisissez? C'est les deux, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'apprends encore de Barnabas? Le duo de choc, ouverture et amour envers les étrangers pour qu'eux aussi puissent être intégrés dans le royaume de Dieu. Moi, ça me bouleverse. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'il défend la doctrine du salut par la foi en Jésus, suffisante pour les Juifs et les païens. Et enfin, après la rupture entre Paul et Barnabas au sujet de deuxième chance, quand même, Jésus l'a dit, si tu viens présenter ton offrande au temple et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, tu n'as plus religieux à faire, tu vas le trouver et tu vas te réconcilier avec ton frère. Ils ont quand même mis ça en pratique, pas vrai? Eh bien, que l'Esprit Saint qui a utilisé des Barnabas nous utilise nous aussi. Merci pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse, nous renouvelle et nous conduise tous, aînés et plus jeunes. Amen. Thank you.
Seigneur de la récupération, de la réconciliation, résolution aussi des conflits à la longue, des retrouvailles quand nous serons auprès de lui. C'est bien de juste penser, le morceau de musique nous a donné l'occasion, qu'est-ce que je prends avec moi ce matin, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, qui m'interpelle, que... J'aimerais lui laisser la place pour l'opérer aussi dans mon cœur. Barnabas aussi est un homme généreux, c'est le moment de l'offrande. Nous allons chanter que le Seigneur est digne. Digne parce que le Dieu de la deuxième chance, le Dieu qui nous accueille dans le même malgré nos différends, Dieu qui est là.
Tu es plus que vainqueur, Seigneur.
vous invite à rester debout pour la bénédiction de la plume de l'apôtre Paul. Je crois qu'il a appris de Barnabas en écrivant à une autre église, aux Thessaloniciens. Exhortez-vous, réconfortez-vous, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Ça, c'est beau, hein? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. J'avais signalé qu'il y a une information que Michel Serex veut nous transmettre. Si vous devez nous quitter, si vous pouvez déjà aller vers le foyer, mais si c'est dans vos possibilités, ça va prendre 5 minutes, pas plus que 10 en tout cas, de quelque chose qui est mis en route dans notre église, Transformation. Et ensuite, si vous avez loupé les annonces, je demande à Rebecca, après l'intervention de Michel, de juste les passer en boucle. Mais si vous devez nous quitter, n'hésitez pas de nous laisser.
Alors, je vais me mettre là un peu de côté. On va parler donc de transformation. On ne le voit pas d'entrée, hein. Mais c'est parce que transformation, c'est la suite d'un processus. Un processus dont nous vous avons déjà parlé lors du colloque, lors de notre assemblée générale, le 13 novembre 2015. Nous avions alors fait un état des lieux qui prenait en compte la communauté, sa croissance, l'augmentation de sa diversité, le déséquilibre dans la pyramide des âges, également l'environnement dans lequel nous évoluons, la rénovation de la chapelle juste à côté, qui est en cours, qui va bientôt débuter, le nouveau quartier qui va s'implanter 2 rues derrière, plus 3000 habitants à échéance peut-être 4 ans, et également la collaboration avec la paroisse protestante de Mérin. Nous avions également évoqué le ministère pastoral. Le mandat de Roger se termine officiellement en juin 2017 et également la dynamique propre au conseil. Depuis 2015, le conseil, c'est 4 personnes au lieu de 6 et toutes effectuent au minimum leur 3e mandat. Et nous avions, lors de ce colloque, constitué un groupe d'appui au conseil. Alors voilà, nous l'avons baptisé. Ça s'appelle le groupe Mouvement. Voilà sa composition. Alexia Francano, Aurélie Jeunecamp, Jean-Yves Muller, qui présidera ce groupe, Xavier Perrin, Charles-Abel Piguet et Xavier Schmitt. Le mandat de ce groupe, c'est définir le profil de l'Église et imaginer le devenir de l'Église. Et c'est ensuite travailler avec le Conseil à l'élaboration d'objectifs et également réfléchir avec le Conseil à comment est-ce qu'on met en œuvre ces objectifs. Nous avons eu depuis 3 rencontres, ce qu'il faut quand même, depuis le 13 novembre, nous nous sommes vus le 22 novembre, le 6 décembre et hier, toute la journée, hier 16 janvier, et nous avons choisi ensemble de rejoindre cette démarche proposée par notre fédération d'église, cette démarche qui s'appelle Transformation. Voilà. Alors Transformation, vous voyez, c'est une démarche qui est commune à notre fédération, la FRE, et qui se fait, qui se vivra également au sein de l'armée du salut. Transformation, il y a l'idée de transformation, mais il y a l'idée aussi d'action, et c'est un mix un peu de tout. C'est une démarche dont l'objectif est de faire passer une église d'une bonne idée à sa réalisation pratique. Ou, parce que je crois que c'est à peu près la même chose, de donner les moyens de concrétiser une vision qui va dans le sens de la croissance du royaume de Dieu. C'est une démarche assez ambitieuse qui se déroule sur 2 ans, avec 3 étapes principales. Une première étape d'évaluation, ensuite une élaboration de la vision et une mise en œuvre de ce qui a été découvert et choisi. C'est une démarche qui a des étapes définies, et nous avons une première étape qui est devant nous, qui est justement quel est le profil de l'Église, comment est-ce qu'on évalue la vie actuelle de notre communauté. Et cette première étape a une échéance, c'est le 30 avril 2016. Donc vous voyez que Transformaction, on est tout de suite dans l'action, on va se mettre en route très rapidement. Cette démarche nous permet de bénéficier de l'aide d'un coach extérieur qui est proposé par l'AFRE. En l'occurrence, nous aurons l'aide de Claude Bordigoni, pasteur à Reconvilier actuellement, ancien cadre chez Microsoft. Et nous avons déjà eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises et nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir cheminer avec lui. C'est une démarche, c'est clair que le groupe mouvement, le conseil va la porter, mais c'est une démarche également qui se vit avec toute la communauté. L'idée n'est pas que ces 2 groupes fonctionnent dans leur tour d'ivoire, mais au contraire qu'ils interagissent avec vous, avec la communauté, pour cheminer dans cette découverte de la vision de Dieu pour notre Église. Donc, vous allez être sollicité par des personnes du groupe mouvement. Vous allez être interpellé. Et puis, c'est également une démarche pour laquelle nous vous demandons de prier pour son bon déroulement. Voilà, ça, c'est le logo et le motto, le slogan de Transformation, un cheminement vers une communauté qui, vivifiée par le Christ, va se multiplier. Et ils appuient cette démarche sur ce verset d'Ésaïe 43. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Voilà, c'est l'information que je voulais vous transmettre, vous dire que voilà, c'est en route. Nous avons commencé à initier cette démarche transformation pour mieux saisir ce que le Seigneur désire pour cette Église et pour la population qui nous entoure. Des questions dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Et puis vous pourrez vous approcher autrement, soit de quelqu'un du conseil, soit de quelqu'un du groupe mouvement, pour obtenir plus d'informations et des éléments peut-être plus concrets, ou des choses qui vous titillent, vous aimeriez bien savoir. Est-ce qu'il y a des questions?
Quelle est la mission de l'armée du salut?
En fait, ce programme Transformation, il va s'appliquer, se mettre en œuvre dans ces 2 fédérations, si on veut bien, aussi bien au niveau de l'AFRE qu'au niveau de l'armée du salut. Ce programme, il comporte, il faut le dire, je ne l'ai pas relevé là parce que voilà. Il comporte des journées plénières où les différentes communautés qui participent à cette démarche se retrouvent, peuvent partager sur ce qu'elles vivent, la manière où elles en sont dans la démarche, prier les unes pour les autres. Voilà. Donc il y a une interaction, et c'est intéressant d'avoir une interaction avec d'autres réalités, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, nous sommes à votre disposition si vous le souhaitez. Merci.